Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Indesciences, la nouvelle façon de vous parler de science. Chaque mois, nous vous proposons un nouveau podcast avec un chercheur ou un acteur scientifique du quotidien pour vous parler de physique, de mathématiques, de biologie, de chimie, d'environnement, de géologie, de toutes ces choses qui nous entourent. Les podcasts d'Indesciences ont pour but de valoriser les travaux de recherche, mais aussi de mettre en lumière les actions permettant la vulgarisation scientifique. Vous pouvez suivre notre actualité sur www.indesciences.com. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast d'Indesciences, donc le premier podcast de l'année 2020 et du nouveau bureau tout frais, tout beau. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir enfin Sébastien Carassou. Ça fait
enfin.
Bien. Oui, ça fait bien longtemps
ça,
qu'on.
Ça fait un moment qu'on en parle.
Ouais, qu'on commençait à parler. Donc Sébastien Carassou, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais bon, ça m'étonnerait, mais c'est un grand vulgarisateur. Tu es présent sur YouTube, sur la chaîne de Sense of Wonder.
Tout
donc en quoi ça consiste concrètement?
C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui traite de l'univers dans sa globalité et puis de notre rapport à l'univers en particulier, de ce qu'il nous fait ressentir et de ce qu'il nous apprend. Voilà.
D'accord. Donc tu travailles essentiellement tout seul dessus?
Alors, on est deux sur le projet. Je bosse avec Étienne Ledollet, qui est journaliste scientifique. Et voilà, on bosse à deux depuis maintenant presque 5 ans.
Ah ouais?
Ça fait un moment.
Ok.
Ça ne me rajeunit pas.
donc effectivement, tu es docteur en astrophysique.
Oui.
Donc en 2017, il me semble.
J'ai soutenu en novembre 2017, ouais.
Wow.
J'ai passé 3 belles années à étudier les galaxies. Et voilà, donc maintenant je me consacre à la vulgarisation, mais mon background, c'est ça.
Ok, bah justement, en parlant de ton background, est-ce que tu pourrais te présenter depuis le bac, en gros, et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'astrophysique?
Ok, alors, ce qui m'a amené à faire de l'astrophysique, ça remonte avant le bac, du coup, je vais commencer par là, peut-être. Bon, c'est une histoire un peu cliché, mais à la base, c'est un rêve de gosse, quoi, comme souvent dans ce genre de métier en astrophysique en particulier, c'est un métier à vocation, donc voilà, ça a commencé quand j'étais gosse, quand je consommais beaucoup de science-fiction et de science dans des magazines, des Sciences et Vie Junior, dans des bouquins d'Hubert Reeves, etc. Et donc à partir de mes 12 ans, je voulais faire de l'astrophysique, donc je suis passé par un bac S, et puis un parcours assez classique, hein, j'ai fait une prépa scientifique, maths physique, maths sup, maths spé. Et ensuite, j'ai embrayé à la fac, où j'ai fait un magistère de physique fondamentale. Donc, c'est une espèce de combinaison de licence et de master en physique fondamentale à la fac d'Orsay. Et j'ai enchaîné par un master 2 en astrophysique, qui m'a conduit à un doctorat un an après. Donc,
savais déjà que tu voulais faire un doctorat quand tu as commencé tes études, ou c'est venu...
Alors, quand j'ai commencé mes études, je ne savais même pas ce que c'était un doctorat.
Ouais.
Du coup, voilà, je suis un peu le premier scientifique de la famille. Mais de fil en aiguille, c'est un parcours qui a été plutôt naturel, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire depuis le début. Je ne dirais pas que ça a été sans chaos, mais, mais ça s'est fait au final, quoi, a posteriori.
Donc, tu as vraiment eu cette vocation de faire un doctorat pendant tes études. Et
ouais.
Pour autant, tu n'es pas chercheur.
Et je ne suis plus chercheur. J'ai arrêté la recherche après ma thèse.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une longue réflexion. Pour moi, je n'ai jamais eu de plan B avant de faire une thèse. J'ai toujours voulu être chercheur. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait arrêter la recherche. Déjà, il y a eu le fait que j'ai commencé une chaîne YouTube en première année de thèse. Ce qui n'était pas forcément une bonne chose à faire quand on fait une thèse, parce que les deux activités, faire une chaîne YouTube et faire une thèse, ont tendance à être un peu chronophages. Donc voilà, mes directeurs n'étaient pas super chauds dans l'idée que je fasse une chaîne YouTube.
Ah, tu leur en as parlé?
Je leur en ai parlé, j'étais tout fier et tout, et puis ils m'ont fait, bon, faut que tu arrêtes tes conneries maintenant, on ne te paye pas pour ça. Ce qui est vrai, ils ne me payaient pas pour ça. Mais ça, il se trouve que la chaîne YouTube a quand même explosé au même moment, et du coup, je me suis retrouvé à avoir une espèce de double vie cachée à mes directeurs, et puis à bosser sur ma thèse le jour, et une partie de la nuit, et puis le reste de la nuit sur la chaîne. Mais au final, ça a plutôt porté ses fruits, et à la fin de ma thèse, je me suis dit que, disons qu'il y a tout un système du milieu de la recherche qui favorise pas forcément des bons comportements, qui favorise pas forcément une vie psychologique bien remplie, et voilà, il y a eu une longue discussion avec moi-même pendant la dernière année de ma thèse, et je me suis dit que j'avais pas forcément envie de faire le parcours plein de post-docs, faire des sauts de puce un peu partout dans le monde.
Parce que dans l'astrophysique, vous avez plutôt tendance à faire beaucoup de post-doctorats.
Ouais. Mais en fait, dans la recherche en général, parce qu'il y a très très peu de postes qui sont créés chaque année en France, ça aussi entre une dizaine et un poste. Enfin, voilà, ça dépend des années, en fait. Je crois que l'année dernière, il y a eu 0 postes qui ont été créés, ouverts par le CNRS. Donc, ça a tendance à rendre les gens autour de moi aigris. En tout cas, j'ai posé la question à beaucoup de postdocs et beaucoup de gens qui ont fait des carrières dans la recherche. Et en fait, je ne voulais pas devenir ça. Ouais. Et j'adore la science, j'adore le processus de la recherche. On rencontre plein de gens passionnants et passionnés et on a l'occasion de discuter pendant des heures sur plein de sujets. Par contre, il y a un côté très stressant, très angoissant dans le milieu de la recherche tel qu'il se fait à l'heure actuelle avec la pression à la publication et l'énorme compétition que ça génère avec des gens qui sont tous très très compétents. Et je voulais pas prendre part à ça, quoi. Je pensais pas que ça allait me rendre heureux. Bon, après, j'ai décidé de faire un truc encore plus précaire que la recherche, c'est-à-dire devenir vidéaste. On peut peut-être me dire, est-ce que c'était vraiment le choix le plus rationnel? Mais voilà, il se trouve que c'est vers là que je me suis tourné. Pour l'instant, je regrette pas.
Bah, moi, je trouve personnellement que c'est un choix assez rationnel parce que finalement, la vulgarisation, c'est un peu ce qui manque au monde de la recherche. Ouais. Surtout, bon, les anciens chercheurs, les chercheurs de la vieille école, entre guillemets, n'avaient pas vraiment cette facilité à communiquer comme nous, aujourd'hui, on communique. C'est vraiment l'image du chercheur qui travaillait tout seul, il fallait surtout pas en parler. C'est vrai que c'est en train de commencer à changer.
Ça commence à peine.
Ça dépend des domaines, j'ai l'impression. Peut-être que dans l'astrophysique, c'est un peu plus des milieux nichés, je dirais, comme la bio. Moi, je viens du milieu des matériaux. On fait beaucoup plus de communication et beaucoup plus de partenariats, mais je pense que oui, ça dépend du domaine. Et donc, je suppose que toi, c'est un peu ce qui t'a manqué, le fait de vulgariser ce que tu faisais, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir en communiquer, et d'où le fait que tu aies monté ta chaîne.
Carrément. Et en fait, moi, ce qui me manquait à l'époque où j'ai lancé ma chaîne, il se trouve qu'à la base, j'avais commencé par faire un blog quand j'étais en troisième année de licence, qui s'est transformé en chaîne YouTube parce que c'était l'époque où les chaînes YouTube explosaient en France. Et je me suis dit, là, je touche 400 personnes avec mon blog, peut-être que je peux en toucher, je sais pas, 10 fois plus avec une chaîne YouTube. Bon, il se trouve que ça a été 100 et 1000 fois plus. Mais voilà, il y a un vrai engouement pour ça en France. Et ce qui me manquait, en tout cas, ce qui me manquait dans le paysage de la vulgarisation à l'heure actuelle, en astronomie, c'était l'angle de l'émerveillement. Et l'angle de, on est face à un univers qui est juste merveilleux, fantastique, et la plupart des gens ne le savent pas. Et quand ils regardent dans le ciel, les rares étoiles qu'ils peuvent voir, ils ne savent pas ce que c'est. Et de se dire que ce qu'ils regardent dans le ciel, ce n'est pas juste des points blancs qui sont statiques, c'est des mondes à part entière, c'est des étoiles qui explosent, c'est des nébuleuses, c'est plein de choses qui sont liés à notre histoire personnelle, à l'histoire de l'humanité, etc. C'est important de le dire, quoi, parce que ça nous permet de nous lier de manière plus globale au reste du monde. Et pour moi, c'est ça, avoir une vision scientifique du monde, c'est de combiner plein de points de vue qui sont des approches rationnelles sur le monde, mais qui sont aussi des approches qui sont esthétiquement belles. Donc c'est ça que je voulais promouvoir, et que je trouvais qu'il n'y avait pas assez dans le paysage. Donc c'est mon petit essai pour faire ça.
Et à l'heure actuelle, tu en penses quoi du paysage de la vulgarisation dans ton domaine ?
Dans mon domaine, je trouve que ça c'est plutôt... Il y a un écosystème qui s'est créé. En tout cas, sur YouTube, on a une belle brochette de vulgarisateurs scientifiques qui s'est montée. Enfin, moi, je pense notamment aux gens qui sont dans le Café des Sciences, qui est une association de vulgarisateurs en ligne multiformat, et qui compte à peu près 200 vidéastes qui sont... à mon sens, qui font partie des meilleurs vidéastes francophones sur YouTube aujourd'hui. Et donc, qui promeuvent la culture avec une vraie approche, une vraie bienveillance, une vraie rigueur aussi, parce que l'idée, si on entre au Café des Sciences, c'est qu'on produit un contenu qui est rigoureusement, qui est scientifiquement rigoureux.
C'est tenu par des étudiants ou
Alors, il y a des étudiants, il y a des médiateurs, il y a des chercheurs, il y a juste des passionnés. Donc, les profils sont assez variés. Mais c'est une communauté de pratiques, quoi, où on se fait relire nos textes entre nous pour s'assurer d'avoir des meilleures productions a posteriori. Et donc, depuis 2014-2015, il y a une vraie communauté qui s'est montée. Et je trouve ça assez génial ce qui est en train de se créer, parce qu'on est en train de dépasser un petit peu le côté juste YouTube. Alors, on a plein de vidéastes qui vont maintenant faire de la médiation vers des publics directement. On commence à nous appeler pour faire des partenariats avec des institutions. Donc, il y a un impact qui est mesurable, qui est là. Et on peut toucher un public très, très large. Et ça, c'est cool.
Et notamment en parlant des associations, est-ce que tu penses que la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose où les étudiants peuvent déjà avoir une approche assez rigoureuse pendant leurs études, notamment via les associations étudiantes, etc. Où est-ce que tu penses que c'est vraiment un métier à part entière, la médiation? Est-ce que, voilà, pour faire une bonne médiation, être étudiant, ça suffit pas forcément, c'est pas assez rigoureux? Est-ce que tu penses qu'il faut, il faut vraiment faire des études vraiment ciblées pour la médiation?
Alors moi, je pense pas du tout qu'il fallait faire des études de médiation pour faire de la médiation. Alors évidemment, quand on fait des études de médiation, on acquiert des compétences et on acquiert une espèce de vision systémique de la médiation et de l'écosystème de la médiation en général, qui est en soi intéressante à apprendre. Mais je pense pas que juste vulgariser des concepts, prendre des concepts dans un jargon scientifique et de le mettre dans, et de le traduire dans un, dans une version qui est plus digeste pour des publics variés, ça, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Il faut juste avoir des garde-fous, de se dire quelle source je vais utiliser, voilà. Et ça, les étudiants, ils savent à peu près le faire parce qu'on leur apprend en général à trier les sources scientifiques. Il y a des cours de méthodologie. Et à partir du moment où on a cette rigueur-là, et cette humilité de se dire je ne vais pas promouvoir une espèce de une version de la vérité, mais je respecte le consensus scientifique ou le processus scientifique qui ont permis à ces résultats d'arriver dans le milieu, là je pense que tout le monde peut le faire, même si on n'est pas étudiant. En fait, il y a des journalistes qui n'ont pas du tout de formation scientifique et qui font du très bon contenu de vulgarisation scientifique. Sur YouTube, il y a des gens qui, voilà, par exemple, sur YouTube, le vidéaste le plus connu, Dr Nozman, il n'a pas du tout une formation scientifique. Alors, il a refait une licence en bio à un moment, ouais. Mais il produit aujourd'hui le contenu qui est le plus vu par les adolescents sur YouTube. Et il a une démarche qui est très très humble, il se fait relire ses textes, etc. Donc, on peut produire du bon contenu comme ça. Alors évidemment, moi je viens du milieu associatif de base. J'ai moi-même lancé une association il y a 5 ans qui s'appelle le Collectif Conscience, qui est une association de médiation scientifique multiformat, où on essaie de faire des formats qui sont pas qui sont émergents ou un peu innovants, où on essaie de s'amuser pour faire des trucs entre passionnés de vulgarisation. Et en fait, ce genre d'association, ça nous permet de rencontrer d'autres gens et de se sentir motivé à faire des trucs, ce qui est pas forcément facile, hein, quand on fait les choses tout seul, quand on veut faire de la médiation tout seul, quand on sait pas forcément qu'est-ce qui se fait ailleurs, on peut vite se sentir isolé. Et il y a vraiment un avantage à la communauté là-dedans, juste pour s'entre motiver et se retrouver entre passionnés. Et je pense que ça peut avoir un vrai impact sur, au niveau régional, voire national, selon les projets que vous faites, quoi. Il y a énormément d'associations qui agissent sur leur territoire local, qui permettent d'avoir une présence de la culture scientifique dans des endroits qui n'auraient pas accès forcément aujourd'hui. Et voilà, des assos comme le Café des Sciences ont aujourd'hui un impact national parce qu'il y a des institutions qui bossent avec.
Comme Pant of Science, tout ce genre de choses. Et justement, est-ce que tu penses que la vulgarisation, ce serait quelque chose qu'il faudrait rendre obligatoire pendant notamment le cursus scientifique de base? Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce qu'on serait meilleur chercheur en ayant eu des bases de communication, de vulgarisation?
Alors, je sais pas, parce que c'est vraiment deux boulots différents. Dans un côté, on va produire de la connaissance, et puis de l'autre, on va la diffuser, enfin la traduire. Je sais pas si on devrait l'obliger, parce que le problème, c'est que la communication, c'est quelque chose d'humain à humain. Et tout le monde n'est pas forcément fait pour la communication. Je pense que ce serait bien qu'on ait une plus grosse présence de la communication, et que ça devrait être une option proposée à des étudiants à des niveaux... Alors, moi, les premiers... quand j'ai fait ma licence et mon master, il y a commencé à y avoir des cours de vulgarisation à partir du master, donc c'était à la fac d'Orsay, donc c'était les cours de Julien Beauprof. Moi, j'y ai pas eu accès, donc tout ce que j'ai appris en médiation, je l'ai appris un petit peu en autodidacte.
Il y en a quand tu fais un doctorat maintenant, ils proposent des formations transversales
pour
la vulgarisation.
Tout à fait. Mais j'aimerais bien que ces mêmes formations, aujourd'hui j'en donne ce genre de formation à des doctorants,
d'accord.
En tout cas sur l'écriture de vidéos de sciences, mais j'aimerais que ça vienne un tout petit peu plus tôt.
Oui.
Parce que l'avantage que je vois à la vulgarisation, en tout cas d'un côté très égoïste, c'est que ça permet d'avoir une espèce de vision d'ensemble de son domaine et une meilleure compréhension de ce qu'on fait. Quand on est chercheur ou quand on est étudiant, on passe son temps à avoir le nez collé à un mini-problème. Et c'est très difficile de sortir son nez du problème pour voir l'état global des connaissances sur un sujet. Et le fait de se reposer des questions naïves et de s'obliger à traduire ses pensées super complexes dans un langage beaucoup plus simple, eh ben, en fait, enfin, personnellement, moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est une grande... ça fait partie des raisons pour lesquelles je vulgarise, pour ce côté très égoïste de mieux comprendre qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est quoi les questions qui sont sur le tapis.
Puis même en tant que chercheur, souvent il faut chercher des fonds, il faut aller démarcher des institutionnels, etc. Je pense que le fait de bien vulgariser, au moins de bien communiquer, ça aide aussi dans ces démarches-là. Donc,
Mais carrément. Et puis même dans les colloques entre les chercheurs, je veux dire le nombre de séminaires ou de colloques où les gens font des présentations absolument abscontes et où personne ne comprend à part deux personnes dans la salle. Eh ben, ça fait pas du bien à la méthode scientifique général, parce que les idées, elles se diffusent mal et elles pourraient... Voilà, il y a des trucs très très simples qu'on connaît aujourd'hui. Il y a même des études sur la science de la communication des sciences. Et en fait, peu de scientifiques aujourd'hui connaissent les résultats des sciences de la communication des sciences. Pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter au public qu'on vulgarise, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas juste déficients en science et ne sont pas juste des pages blanches qu'on va essayer de déverser du savoir scientifique dessus. Tout ça, on est encore largement dans une vision de la vulgarisation qui a quelques siècles maintenant, on a commencé la vulgarisation à peu près au milieu du 19e siècle, et on est encore largement dans ce qu'on appelle le modèle du déficit. Donc voilà, les gens sont déficients en culture scientifique et on va arriver avec notre vision d'expert, et on va déverser notre savoir, et puis après tout ira mieux. Mais en fait, en pratique, c'est un modèle qui fonctionne mal, et qui peut même produire une distance entre le public et la science, parce qu'ils n'aiment pas se faire parler de haut, et voilà. Et ils ont un vocabulaire, ils ont des connaissances scientifiques sur des trucs, pas forcément les bonnes, mais c'est important de savoir, de partir de ce que les gens savent, pour pouvoir updater leurs connaissances. Mais ça, faut le savoir.
C'est sûr. Et si aujourd'hui tu n'étais pas vulgarisateur, tu serais forcément chercheur.
Je sais pas ce que je serais. J'en sais rien en vrai. Je réfléchis pas comme ça. J'ai jamais eu vraiment de plan B et ouais. En fait, j'en sais rien.
Moi, je pense que tu restes quand même passionné parce que finalement, la vulgarisation que tu fais au quotidien dans tes vidéos YouTube, ça reste quand même assez centré sur ton domaine de base. Mm-hmm. Donc
c'est peut-être sur le point de changer, mais pour l'instant, c'est le cas. C'est une prise de risque professionnelle. Hein. Quand on s'éloigne un tout petit peu de son domaine de compétences pour aller dans des domaines qui ne sont pas mes domaines de confort, il y a une prise de risque parce qu'on n'est pas expert du domaine et qu'il y a une notion de légitimité qui est importante dans ces trucs-là. Moi, je ne suis pas pour les gens qui se prétendent experts en tout en général, et surtout dans les grands médias où on invite toujours les mêmes têtes pour parler de tous les sujets sur lesquels les gens ont des avis sur tout. Par contre, je commence à m'éloigner un petit peu de l'astrophysique pure, qui est ma formation professionnelle, pour m'orienter vers des sujets comme le changement climatique, les sciences du système Terre en général, la géologie, voire même un petit peu plus loin, mais on pourra peut-être en parler plus tard.
Et tu t'éloignes parce que tu trouves que tu as fait le tour ou parce que à l'heure actuelle, il y a des sujets très importants, notamment là, tu parlais des enjeux climatiques, et tu ressens le besoin d'en parler, tu ressens le besoin d'informer autrement les gens. Pourquoi tu te diriges vers ces sujets ?
Exactement, je ressens vraiment une urgence. En fait, je pense être pas le seul à ce niveau-là. Hein. Il y a un gros engouement sur les questions des enjeux climatiques et de la biodiversité. Et je me rendique de ce mouvement-là. Et je pense qu'on a besoin, plus que jamais, d'une information qui soit fiable à ce sujet-là. Parce que autant le constat, il est partagé par tous. Le GIEC a fait un super boulot à ce niveau-là. L'IPBES a fait aussi un boulot qui n'est pas trop mal pour tout ce qui est érosion de la biodiversité. Donc, c'est ancré dans la perception publique qu'on a des problèmes de changement climatique et on a une érosion de la biodiversité. Maintenant, on a aussi des solutions qui nous viennent du monde des sciences, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Elles n'ont pas forcément la même valeur de vérité que des sciences dures. Voilà. C'est plutôt des solutions qui sont des propositions éclairées par des scientifiques. Mais celles-là, on les entend beaucoup moins dans l'espace public. Et aujourd'hui, les sujets d'écologie cristallisent certains débats qui ne sont pas forcément les débats qu'on devrait avoir si on parle de ces enjeux-là. Et c'est un peu flippant quand on... Il y a une espèce de dichotomie entre le temps qui est accordé pour la recherche, qui est un temps long par définition, et le temps qui nous reste pour agir, pour faire voilà, pour limiter la casse dans les décennies à venir. Et ça, bah, c'est un temps beaucoup plus court. Donc, quand on est un scientifique engagé là-dedans, on doit jongler entre ces deux temporalités-là. Et c'est vraiment pas simple, parce qu'il faut, faut faire honneur à la figure de l'expert qui va pas dire raconter n'importe quoi, mais il faut aussi faire honneur à la figure de l'activiste qui est là pour promouvoir des bonnes solutions à un instant T. Donc, c'est, voilà. En ce moment, je jongle un petit peu là-dessus, sur le bout de mes pieds.
Et mais, tu trouves que les chercheurs qui sont vraiment concernés par les recherches sur le climat, ils en parlent assez, selon toi, ou justement
Alors, on n'en parle jamais assez, évidemment. Ouais. Je trouve que les gens qui sont déjà engagés là-dedans le font super bien. Je pense à des gens comme Valérie Masson-Delmotte, des gens comme Jean Jouzel, Hervé Le Treut, etc. C'est des gens qui sont très présents sur l'espace public et qui occupent l'espace médiatique. Après, la proportion de ces gens-là par rapport aux gens qui bossent sur ces questions-là est ridiculement petite. Et le problème, c'est que quand on invite encore des climato-sceptiques sur les plateaux télé, c'est difficile, en fait, de... Voilà, il y a vraiment un enjeu pour la communauté scientifique au sens large d'intégrer des espaces médiatiques pour mettre en avant des sources scientifiques fiables et mettre en avant le processus qui nous amène à ce genre de connaissances. Parce que c'est ça qui crée de la confiance avec le public, en fait. Il y a une crise de la confiance envers les institutions aujourd'hui, pas seulement scientifiques, mais aussi politiques, et il y a plein de raisons à ça. Certaines sont justifiées, d'autres non. Mais il y a vraiment un enjeu pour aller vers les médias, et ça commence à arriver. Il y a des sites comme les Expertes, par exemple, qui sont là pour pouvoir promouvoir une visibilité des chercheuses dans l'espace médiatique, histoire qu'on n'invite pas toujours le même mec blanc sur tous les sujets. Mais voilà, il y a cet enjeu au niveau des médias traditionnels, mais il y a aussi les enjeux au niveau des nouveaux médias. Et là, on a beaucoup moins de gens dans les nouveaux médias. Les nouveaux médias, c'est les podcasts, c'est YouTube, c'est les blogs. Et là, ces espaces-là, ils sont pas encore, bien intégrés, parce que c'est des trucs en transition, évidemment. On commence à peine à avoir des gens qui s'intéressent à ça. Il y a des réticences qui sont parfois légitimes, parfois pas légitimes. Mais plus on sera de gens à occuper l'espace, et moins on aura des risques que les gens consomment des fake news en permanence, quoi.
Ah ça, les fake news, c'est un vaste sujet, surtout dans ce domaine. Et je vais poser une question qui fâche.
Vas-y.
Mais voilà, là, tu as un bon exemple parce que donc, tu étais passionné de l'astrophysique. Là, tu nous dis que tu vas commencer de plus en plus à parler des enjeux climatiques. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans la recherche, on devrait moins allouer de moyens financiers à des choses comme, par exemple, l'astrophysique qui sont finalement loin et plus se concentrer sur les enjeux climatiques, ou au contraire, est-ce qu'il faut continuer de mettre de l'argent dans cette recherche-là, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, pour continuer de faire rêver les gens, malgré ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que s'il y avait du budget à enlever, ce serait plutôt du côté de la défense ou du côté des divertissements qui coûtent des centaines de millions d'euros pour pas grand-chose, au final, pour deux heures de spectacle. Au niveau de la recherche, je pense que c'est important qu'on finance la recherche fondamentale, parce que ça permet d'ouvrir des perspectives et souvent des solutions appliquées ou des technologies viennent des recherches fondamentales. Je pense qu'au laser, par exemple, quand Einstein propose l'idée du laser dans les années 1915, il va pas penser à en faire des trucs pour soigner des yeux, pour lire des CD, pour traiter des maladies. Pourtant, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. L'astrophysique, ça nous a énormément servi, indirectement. Aujourd'hui, on se sert des algorithmes de traitement d'images du télescope spatial Hubble pour détecter des cancers. Aujourd'hui, les recherches qu'on a faites sur la planète Vénus, par exemple, elles ont été déterminantes pour qu'on comprenne, dans les années 70-80, qu'il y a un trou dans la couche d'ozone qui commençait à se former avec l'effet des CFC qu'on balançait dans l'atmosphère. Et en fait, il y a un vrai enjeu de ce qu'on appelle la planétologie comparée, quand on fait de l'astrophysique, par exemple, de se dire, on va regarder d'autres planètes, et c'est par la comparaison de ces planètes différentes qu'on peut dire à quel point la Terre est particulière dans son fonctionnement climatique, et à quel point elle est influencée par des processus comme la vie ou nous, par exemple. Et c'est là où on peut relier des choses qui paraissent juste très très éloignées, mais qui en fait ne sont pas du tout éloignées, qui parlent de nous indirectement. Et c'est important, je pense, d'allouer des crédits à ce genre de recherche. Après, enfin, quand on fait de la recherche, on ne sait jamais où on va. Et c'est un peu le but du truc, hein, c'est aussi d'étendre la sphère de la connaissance de l'humanité. Mais je pense que c'est important qu'on s'autorise ce genre de divagation qui, certes, font rêver les gens, mais on ne le fait pas parce que ça fait rêver les gens, on le fait parce qu'on a une vraie curiosité sur le monde et on essaie de mieux comprendre ce qui nous entoure. Et je pense que oui, on devrait mieux financer tout ce qui dit sciences sociales, parce que ça a des impacts directs sur la société. Aujourd'hui, si tu fais une thèse en sciences sociales, bah, tu n'es pas forcément payé dans ce que tu fais. Et ça, c'est, je trouve ça aberrant, en fait. Alors qu'en sciences dures, quelle que soit la thèse, on est forcément financé. Et voilà, donc il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. Par contre, non, je pense qu'on devrait continuer à financer des recherches qui semblent servir à rien.
Oui, de toute façon, il faut toujours financer la recherche. Est-ce que tu penses qu'on peut tout vulgariser ? C'est-à-dire, est-ce que, à force de vouloir trop vulgariser, même des sujets touchy, tout, même le climat, etc., justement, on ne provoque pas le fait qu'il y ait une augmentation de fake news ? Est-ce que c'est pas...
Je pense que ça dépend vraiment, en fait, du but que tu as. Si le but que tu as, c'est de faire comprendre aux gens la méthode scientifique, tu vas forcément devoir passer plus de temps à expliquer des choses. Donc ça dépend de la temporalité que tu as. Et aujourd'hui, il y a dans plein de médias différents, tu as des temporalités différentes. Si tu regardes une vidéo sur Brut, ça va prendre une minute. Donc si tu veux calibrer ton message scientifique pour une vidéo de Brut, il faudra que tu élagues une grande partie de la complexité de tes questions et que tu fasses avec. Parce que la vidéo de Brut, elle va être vue par des millions de gens, mais ça va occuper l'attention de millions de gens. Et ça, c'est important quand même, parce que c'est un message scientifique et voilà, c'est pas forcément ce qui est mis en avant un peu partout. Si tu veux vulgariser des choses dans toute leur complexité, là, tu vas faire un article de blog, tu vas faire quelque chose de plus complexe, de plus étendu, mais tu vas restreindre ton public parce que forcément, les gens n'ont pas forcément le temps à consacrer à des messages super complexes. Donc ça dépend vraiment du but qu'on a. Si ton but, c'est de toucher un large public, tu es obligé de simplifier ton message d'un point de vue vraiment systémique. Si tu as envie de te restreindre à un public beaucoup moins large, mais aussi plus éclairé ou plus curieux, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de mettre en avant cette complexité-là. Donc, il y a un équilibre à trouver, en fait, je pense. C'est pas, je pense que oui, on peut trop vulgariser, et parfois on a des sursimplifications, voire du sensationnalisme qui entre en jeu. Et là, je pense aux couvertures des Sciences et Vie qu'on trouve dans les kiosques à journaux, hein, qui ont une stratégie commerciale discutable, clairement, mais qui sont là pour un public qui n'a jamais vu de science. Et voilà, donc on peut partir dans... Enfin, je ne conseille pas de partir dans le sensationnalisme. Par contre, on peut vulgariser absolument tous les sujets. Après, tous les sujets ne sont pas vulgarisables avec la même facilité, hein, on ne va pas... vulgariser les notions de topologie algébrique en mathématiques comme on vulgarise des trucs en astrophysique. Moi, j'ai la chance d'avoir un sujet un peu sexy et un peu facile parce qu'on a des belles images, on a des belles vidéos, on a des sondes spatiales qui produisent des super...
C'est sujet dépendant, quoi.
Voilà, c'est vrai, sujet dépendant. Et j'ai la chance d'être dans un domaine qui est assez sexy à ce niveau-là.
Et donc, en parlant de ça, est-ce que tu penses qu'on peut vulgariser facilement et amener petit à petit les gens vers une vulgarisation beaucoup plus complexe, ou est-ce que les gens, au bout d'un moment, vont laisser tomber parce qu'on rentre dans les détails, ils ne sont pas forcément scientifiques et ils vont se désintéresser?
En fait, je pense que quand on parle des gens, on fait une grosse simplification et en fait, voilà, cette simplification, elle n'est pas super pertinente quand on parle de vulgarisation parce qu'il y a une espèce de mythe du grand public. Voilà, et quand on parle des gens, on a tendance à mettre sous le tapis toutes les questions de classe sociale, de curiosité qui est juste quelque chose d'acquis. Hein. La curiosité, il y a une partie innée, mais il y a aussi une partie acquise. Et la curiosité, elle se perd au fil des ans si on n'est pas dans un milieu qui favorise cette curiosité-là. Donc, quand on parle à des lycéens en REP, on ne va pas leur parler de la même manière que quand on parle à d'autres lycéens dans des quartiers plus aisés. Donc voilà, on va pas mettre en avant les mêmes choses forcément, et c'est pour ça qu'il faut... La règle numéro un en vulgarisation, c'est vraiment de s'adapter à son public. Et à partir du moment où on s'adapte à son public, on comprend les mécaniques de pensée qui sont derrière, il y a une notion d'empathie qui est là, quoi, juste de connaître les gens et d'en avoir quelque chose à foutre des gens qui sont en face de toi. Bon, sur le web, c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas qui on a en face de nous. On a des données démographiques qui sont simples, mais ça n'a rien de très, très pertinent quand on, selon à qui on s'adresse. Par contre, on peut réagir sur les retours des gens et selon les questions qu'ils nous posent, on peut y répondre. Mais voilà.
Ouais. Bah, du coup, pour finir, c'est parfait. Quels seraient, selon toi, les 3 conseils pour devenir un bon vulgarisateur?
3 conseils, ok. Mon premier conseil, c'est de montrer son enthousiasme, parce que c'est peut-être ce qui est même plus efficace que le message qu'on va promouvoir. Il se trouve que le message scientifique qu'on promeut, au final, il y a 90% de chances que les gens l'auront oublié d'ici quelques mois. Par contre, l'émotion qu'ils ont ressentie en regardant quelqu'un qui montre un enthousiasme sincère quand il promeut son message, ça, c'est quelque chose qui peut agir sur les gens de manière beaucoup plus durable. Donc voilà, il y a Julien Bobroff qui fait plein de conférences sur la physique quantique, donc sujet abscon par excellence, et il fait pas mal de conférences à des collégiens. Et ce qu'il disait, c'était que, en général, les collégiens, à la fin des conférences, ils retenaient rien du tout de ce que Julien Bobroff leur avait dit. Par contre, ils retenaient que Julien Bobroff avait une super énergie quand même, et du coup, ça les rendait plus positifs envers les sciences, et ça leur donnait plus de curiosité pour aller plus loin par eux-mêmes après. Donc je pense qu'à partir du moment où on sait transmettre cette énergie-là, on a déjà gagné 50% du truc. Après, le deuxième conseil que j'ai à donner, peut-être à des vulgarisateurs débutants, c'est d'être humble face au processus scientifique, donc, qui est un processus désorganisé par essence, qui est loin des clichés qu'on peut en avoir. La science, elle n'est pas là pour donner la vérité absolue. La science, voilà. Et il faut qu'on sorte de cette posture d'expert sur son piédestal et qu'on se mette au niveau des gens. Et donc, de connaître son public, mais aussi de connaître comment la science fonctionne en détail, avec ses avantages et ses inconvénients, juste pour donner confiance au public, parce que voilà, c'est la science, c'est quelque chose de très humain aussi, et c'est important de mettre en avant ce côté humain. Ça serait mon deuxième conseil. Et puis mon troisième conseil, ce serait peut-être d'être bienveillant envers son public, de pas le mépriser, parce que c'est souvent ça qu'il y a encore cette question vraiment très très humaine, de créer un bon rapport avec son public. Et je pense que à partir du moment où on est bienveillant avec des gens qui ont une vraie curiosité sur le monde, qui ont des questions qui peuvent sembler débiles mais qui sont jamais au final débiles, de prendre en compte ça, bah ça peut créer une chaîne d'inspiration qui va changer la vie de certaines personnes, qui vont créer des vocations. Et voilà, il y a des effets qui peuvent être sur du très très long terme. Et c'est important de garder ça en tête quand on vulgarise à des gens. Voilà.
Eh bien, génial. Merci Sébastien.
Merci beaucoup.
Merci d'être intervenu pour le premier podcast de l'année 2020.